Salut, salut, je suis Lady La Flamme et j'anime Génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en taguant les invités, bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est prends des notes. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Let's be all in!
Salut, moi c'est Catherine Bérubé, j'ai 31 ans et je viens de Lévis à Québec.
Parfait, merci Catherine d'être sur le podcast. Bienvenue premièrement, merci d'avoir accepté.
Ben merci de me recevoir.
Est-ce que c'est le premier podcast que tu fais?
Non, j'ai fait quelques autres podcasts avec quelques collaboratrices.
Oh, génial, parfait. Donc, pour commencer, si tu aimerais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
Oui, alors, on me surnomme l'artiste intuitive. Je suis artiste peintre et surtout passionnée de spiritualité, de yoga, de tarot et de tout ce qui concerne les arts mystiques. Je suis aussi une maman d'une petite fille de 2 ans et d'un autre petit bébé en route et oui, une entrepreneur. Alors, voilà.
Génial, fait que tu portes plusieurs chapeaux présentement. Est-ce que ça fait longtemps que tu es entrepreneur?
Oui, ça fait longtemps que je suis entrepreneur dans l'âme. J'ai eu un saut de yoga pendant 5 ans et c'est ça qui m'a donné la piqûre. Maintenant, je continue plus à mon compte. Mais oui, j'ai toujours été très leader et entreprenante dans mes activités.
Génial. Puis parlons-en de ton studio de yoga. Donc, tu t'as dit que tu l'avais eu pendant 5 ans. Est-ce que tu l'as ouvert toute seule? Est-ce que tu savais comment ça allait fonctionner, l'ouverture? Ou il a fallu que tu ailles te former ou t'informer par rapport à ça?
En fait, au départ, j'étais professeure de yoga. Puis je me suis mise à travailler à temps plein dans une entreprise qui s'appelait à ce moment-là Namasté. Puis j'ai eu à un moment donné l'opportunité d'en faire partie comme gérante, puis éventuellement racheter une entreprise qui existait déjà à Lévis. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais des valeurs qui étaient différentes de l'entreprise, qui étaient plus comme sous une forme de franchise. Et j'ai décidé de me retirer en fait de cette franchise-là pour partir à mon propre nom. Donc là, à ce moment-là, j'ai tout recommencé, le branding, pour réouvrir vraiment officiellement là, avec mon conjoint à ce moment-là.
Génial. Puis c'était un studio qui ressemblait à quoi? Est-ce que c'était grand? Est-ce que c'était pour tout le monde? Ou c'était spécialisé?
Oui, c'était super grand. En fait, il y avait 2 salles. Le studio s'appelait Yin Yang, donc Yin étant plus dans l'énergie féminine, la douceur. Et il y avait une salle Yin qui était plus pour nos cours doux, nos cours aériens avec les hamacs de yoga, nos cours de pole aussi, on avait du pole, fitness. Et tout ce qui était plus aérien était de ce côté-là. Puis on avait la salle Yang qui est plus dans l'énergie du feu, du masculin, que là, c'était notre salle de hot yoga, donc chauffée aux lampes infrarouges. Puis, c'est ça, on donnait les cours de style plus actif, power yoga, vinyasa, boutique. On avait aussi un espace boutique, un espace réception. Donc, c'était vraiment un beau projet.
Ah, wow! Je ne savais pas tout ça. Ça a l'air intéressant. Puis, est-ce que tu as engagé des gens rapidement? Est-ce que ça a été long avant que des gens, en fait, entendent parler de ton centre?
Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai acheté au départ, il y avait une clientèle à peu près 90-100 clients par semaine. En un an, on a quadruplé ça. Donc, on est passé près jusqu'à 400-500 clients par semaine. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie justement à engager des employés. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir une équipe, d'être dans la meilleure position que je pouvais être comme entrepreneur, qui pour moi était vraiment de donner des cours de yoga. Donc, si je voulais me consacrer à ça, j'avais moins de temps pour l'administration, j'avais besoin de gens qui étaient vraiment des perles là, dans ces domaines-là pour m'aider. J'avais aussi une gérante pour la boutique. Donc, j'ai réduit beaucoup l'équipe de professeurs en ce sens-là. On était quelques professeurs clés qui donnaient des cours. Ça me permettait aussi de les avoir comme employés puis de leur offrir quelque chose presque à temps plein. Donc, au lieu que les profs aient à se disperser dans plusieurs studios, elles pouvaient vraiment incarner l'image de la marque, de l'entreprise. Puis, j'avais une petite équipe, là, c'est ça qui était... On était très soudés, c'était vraiment plaisant.
Puis est-ce que tu dirais que tu as tout appris sur le tas, comme on dit, ou tu avais des gens autour de toi qui t'ont aidé à starter ton entreprise?
Un peu des deux, mais c'est sûr que oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le tas. je vais toujours me souvenir d'une fois là, où j'ai éclaté en sanglots en me disant « OK, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Moi, je pensais que comme gérante, j'avais tout vu, j'avais tout entendu. Mais quand tu es vraiment responsable à 100% de ton entreprise, que tu es responsable des employés, de ton local, de toute la charge financière, moi, c'est ça qui me causait le plus d'anxiété. C'était vraiment la charge financière. Ben là, c'est vraiment important de s'entourer. J'ai eu quelques mentors, quelques... collaborateurs aussi qui m'ont soutenu que eux, ça faisait longtemps qu'ils étaient en affaires. Fait que c'est sûr que c'est très, très précieux.
Puis qu'est-ce que tu as appris sur le tas? Je sais pas si c'est une autre expression, hein, mais qu'est-ce que tu as appris en étant entrepreneur justement de ton studio de yoga que tu aurais peut-être aimé savoir avant pour ne pas la faire comme erreur?
Et bonne question. Il y a vraiment beaucoup de choses. Une chose qui me vient en tête principalement, c'est de pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc, moi, j'ai fait des gros investissements dès le départ parce que pour moi, l'image de marque était très importante. C'est sûr que c'était bien. D'un côté, ça montre tout de suite un côté professionnel. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas s'endetter, d'y aller toujours petit à petit. Donc, moi, j'ai grossi rapidement, puis ça a fonctionné, mais ça l'a causé beaucoup de stress qui vient avec. Donc, tout ce qui vient avec le fait de grandir aussi rapidement. L'autre chose que je dirais, c'est de ne pas investir dans... dans le fla-fla, là, tu sais. Moi, souvent, j'avais tendance à m'enfarger dans les fleurs du tapis, là, comme on dit, là. Ouais. C'est payer vraiment beaucoup en publicité, mais sans savoir exactement si ça allait fonctionner. Je vais te donner un exemple. Les petits pamphlets publicitaires qui sont fournis dans les boîtes aux lettres. Il y avait comme 15 000 boîtes aux lettres à Lévis. Puis ça coûtait peut-être 3 000 $ comme investissement. Ben, je pense que cette fois-là, j'ai eu un coupon qui est revenu, tu sais, sur tout.
Oh my God.
Alors que j'avais fait une publicité Facebook à 5 $ puis j'avais eu plus de... Fait que, tu sais, de vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce qui fonctionne pour notre entreprise avant de dépenser.
Vraiment. Non, je pense que c'est un très bon point. Puis parlons-en des finances. Donc, la pandémie est arrivée. Puis je pense que comme toutes les entreprises, ça a affecté beaucoup d'entrepreneurs, en fait. Veux-tu nous expliquer ta situation? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bien, en fait, nous, l'entreprise était vraiment florissante, là. On s'en allait topper une année d'à peu près 300 000 $ de bénéfices. Fait que ça allait vraiment, vraiment bien. C'est sûr que, comme je te disais, on avait des gros investissements aussi qui étaient en cours, donc des grosses dettes. Puis, quand est arrivée la pandémie, on a dû évidemment le fermer complètement pendant quelques mois. Puis, ça a demandé toute une réorganisation au niveau de tout ce qui était en ligne. Fait que là, on a fait des investissements rapides, très, très gros pour s'équiper, pour pouvoir donner des cours virtuels. Fait que tout l'équipement vidéo, audio, toute la plateforme en ligne, parce qu'encore une fois, moi, je voulais que ça soit beau, je voulais que ça soit parfait dès le début, c'est un peu mon défaut. Et ne sachant pas trop qu'est-ce qui s'en venait aussi, donc, on ne savait pas à ce moment-là que ça allait durer un an. Et là, plus les mois passaient, à chaque fois, c'est des réajustements, des remboursements de clients, des changements dans la salle. Donc, des coûts qui se rajoutaient, un loyer d'à peu près 4 000 $ par mois aussi qui était tout le temps là quand même. Des profs qu'on ne pouvait plus payer à un salaire qui était raisonnable, en fait, là, pour eux, là, de venir enseigner aussi. Donc, moi, à un moment donné, c'est que ça concordait tout simplement plus avec mes valeurs d'entreprise. Je me rendais compte que ça me causait plus de mal que de bien, que c'était difficile aussi dans ma vie familiale. Puis ça a été une grosse, grosse décision, mais j'ai décidé de fermer tout simplement à l'été parce que là, ils ont reconfiné aussi à ce moment-là. Donc, on venait juste d'avoir le hockey pour en faire dans les parcs. Puis là, tout de suite, ils nous ont reconfinés. Puis là, j'ai dit, OK, là, c'est assez.
Ça, c'était en quoi déjà, comme juin, juillet 2020?
Oui, dans le fond, j'ai fermé officiellement le studio en juin, puis j'annonçais la faillite au mois d'août.
OK, puis si on revient, quand tu as dit que tu avais acheté beaucoup de matériel audio-vidéo, puis tu voulais faire une plateforme en ligne, tout ça, ça n'a pas fonctionné? Je suis heureuse de savoir qu'est-ce que ça a été par rapport à ça.
Ça a fonctionné, c'est juste que nous, on avait une clientèle qui n'était pas très à l'aise de base. Puis les gens, au début de la pandémie, il n'y avait pas nécessairement d'ouverture. Je pense que s'il y a un côté positif à la pandémie de ce côté-là, c'est que maintenant, les gens, ils ont une grande ouverture à faire des trucs par Zoom. Ils ont vu que c'était possible. Ils ont vu que c'était le fun pareil, que l'énergie se transmettait quand même. Mais au départ, là, les gens, il y avait beaucoup de réticence. Donc, c'était beaucoup de remboursements de forfaits, beaucoup de clients insatisfaits. Puis même si le setup était bien, ben, tu sais, c'est plus des classes remplies à 30 personnes. Tu sais, c'était des cours qu'on offrait moins cher aussi parce que c'était pas sur place. Fait que des cours d'une valeur entre 5 et 10 $ du cours pour des fois avoir 2, 3 personnes au lieu de 30, tu peux pas avoir les mêmes coûts, là, de.
Non, c'est sûr qu'il y a une grosse différence.
C'est ça. Fait que, tu sais, bravo à ceux qui ont décidé de continuer quand même et qui sont encore là. Moi, pour moi, c'était juste plus aligné à mes valeurs puis à ce que je voulais faire.
Puis est-ce que ton conjoint était 100% d'accord avec toi aussi ou il y a eu des petites chicanes par rapport à ça?
Au début, non, c'était vraiment difficile. Mon conjoint, c'était un de ceux qui a fait le plus de rénovations dans le studio quand on a changé de nom. C'est vraiment beaucoup investi. Fait que de perdre l'espace, je pense que c'est ça qui nous a fait le plus de peine parce que notre clientèle était vraiment compréhensive. On sentait leur soutien. On sentait qu'elle allait être encore là d'une autre façon éventuellement. Mais de perdre l'espace dans lequel on avait mis autant d'amour puis que les gens appréciaient aussi beaucoup. Je croise encore des gens à Lévis dernièrement qui me disaient « Je peux m'inscrire ailleurs, mais ça sera jamais pareil. » Tu sais, il y avait vraiment une énergie spéciale, une communauté qui s'était tissée. Donc, ça a été difficile pour notre couple aussi, c'est sûr. En plus, on venait de déménager pour être à côté de notre entreprise.
Oh my God! Ouais, c'est une grosse décision, puis sûrement que tu n'aurais jamais pensé ça un an plus tôt, là, surtout que c'était en croissance.
Ah non, 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 jamais, jamais j'aurais pensé ça. Puis jamais j'aurais pensé faire faillite aussi dans ma vie.
Puis la pandémie est arrivée en mars 2020. T'as fermé en juin, c'est quand même pas beaucoup de temps entre les deux, tu sais, c'est quand même rapide. Est-ce que ta décision était quand même réfléchie ou c'était un peu un coup de tête au fond de toi? Tu sais, t'as-tu souvent pris le temps de t'asseoir pour tout analyser ou c'était une question d'intuition de « non, je ferme ça, je ferme ça »?
Les deux, ça fait... Moi, j'avais un petit bébé de 1 an à ce moment-là. C'est sûr que depuis la naissance de mon enfant, il y avait beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat d'une aussi grosse business qui m'agaçait. Tu sais, que je trouvais que mes valeurs de slow living, de pleine conscience avec mon enfant, il n'était pas toujours respecté. J'avais beaucoup de routes à faire à ce moment-là parce qu'on habitait à 45 minutes du studio. Ça demandait énormément de travail puis de d'esprit, là, tu sais, toujours occupé. Fait que je me questionnais déjà de comment je voulais transformer ça pour que ma vie soit un petit peu plus douce. Puis, quand est arrivée la pandémie, c'était comme un peu mon coup de grâce, là, tu sais. Mm. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une question d'intuition aussi parce que, oui, ça allait vite, mais c'était tellement de remises en question à chaque jour, à chaque semaine, que moi, à un moment donné, j'ai eu vraiment une forte intuition que si ça continuait comme ça, j'allais me rendre malade, tu sais. Fait que... Non, on dirait que maintenant qu'on a un certain délai, ça paraît moins pire, mais tu sais, si on se remet en mars, là, quand c'était la panique totale, qu'on avait peur d'aller à l'épicerie, qu'on savait pas si on allait mourir.
Ouais.
C'est comme différent, là, un peu.
Ouais, 100%. Puis, quand tu as déclaré faillite, comment tu te sentais? Parce qu'il n'y a pas tout le monde, justement, qui déclare faillite, puis tu ne pensais pas déclarer faillite. Comment tu t'es sentie? Est-ce que ça a été long avant que tu t'en remettes, si on veut? Est-ce que tu étais tout de suite prête à partir à un autre projet pour devenir plus forte? C'était quoi ton mindset?
Non, au début, j'étais vraiment anéantie. jamais je pensais que ça allait m'arriver. Je ne savais pas non plus qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence. En fait, une chose que j'ai appris là-dedans, c'est que moi, quand j'ai fait des emprunts pour l'entreprise. On m'avait toujours dit que quand c'était une entreprise enregistrée, c'était l'entreprise qui faisait faillite et pas toi personnellement. Mais quand tu endosses ces prêts-là en ton nom, ce qu'on te dit pas vraiment ou qu'on te fait savoir plutôt sournoisement là, par téléphone, c'est une signature vocale, genre, Puis que, tu sais, moi, j'étais rendue avec une marge de crédit de 50 000, des frais d'amélioration locative de 50 000 aussi à l'achat de mon entreprise, qui était rendue à peu près à 30 000 à ce moment-là. Fait que j'avais une dette, là, d'à peu près 80 000 à mon nom.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, j'ai
pareil.
Comme... Non, c'est ça. Fait que quand, moi, j'ai su ça, là, j'ai fait « OK ». Là, ça fonctionne plus. Puis, en fait, la faillite, c'est ça, c'est que c'est une faillite d'entreprise, mais aussi une faillite personnelle. Fait que c'est ça qui est venu le plus me chercher. Puis, comment que ça fonctionne? C'est que quand on me l'a annoncé, on m'a dit, tu as deux choix. Soit ça dure dans ton dossier pendant 8-9 ans, tu payes seulement 2000 $ mais pendant un an, tu n'as pas le droit de faire plus que 800 $ de revenus par mois.
OK. Ça, c'est l'option
vraiment...
1.
Ouais, ouais. Ce qui est vraiment pas beaucoup, là, parce que
ouais.
Comment tu veux survivre ben quand nous, on venait d'acheter une maison, on avait un enfant, à 800 $ par mois, j'ai dit, madame, vous voulez que j'aille travailler dans un dépanneur deux jours par semaine?
C'est ça.
Tu sais, là, c'était comme un moment vraiment difficile de, OK, je passe de la femme d'affaires, tu sais, connue dans mon domaine, mm-hmm. dans mon secteur, à la fille n'a plus d'emploi, puis elle doit pas être pauvre, mais
ouais.
Tu comprends un peu ce que je veux dire. Ça a été un moment vraiment tough pour moi, là, où j'ai dû me relever les manches, puis tout ça. Finalement, il y a d'autres options. L'une d'entre elles était de faire, dans le fond, une proposition au consommateur. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Proposition au consommateur, ça reste marqué dans ton dossier pendant 3 ans. Mais quand tu la payes, tu peux la payer sur plusieurs mois. Ou moi, ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, c'était de la payer d'un seul coup. À ce moment-là, ils n'ont pas de regard sur l'argent que tu fais après. Puis moi, encore là, mon intuition, c'était que j'allais pas en rester là non plus, que j'allais rebondir de ça, puis me servir de cette expérience-là pour en revenir grandi. Puis j'ai tellement appris dans ces premières années-là d'entrepreneuriat que je savais que quand j'allais repartir, j'allais vraiment pas faire les mêmes erreurs non mm-hmm. plus, tu sais. Fait que je voulais vraiment pas m'empêcher, même dans un court laps de temps, de pouvoir... d'être restreinte dans l'argent que je pouvais gagner. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ça m'a coûté à peu près 15 000 $ Puis, c'était dossier réglé, là, dans le fond. Fait que c'est sûr que, bon, ça reste qu'il y a quelques petits trucs qui sont plus difficiles, comme au départ, tu peux pas avoir nécessairement de carte de crédit, mais moi, je me suis trouvé des petits trucs, tu sais, comme tout sur Internet se paye avec PayPal, j'ai une carte de crédit prépayée maintenant, et honnêtement, j'adore ça. J'ai jamais eu autant d'argent, j'ai jamais de dette, puis tout ce que je mets dans mon entreprise actuelle, je le mets parce que j'ai l'argent pour le faire. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment changé ma vision aussi de l'argent puis de l'abondance.
Vraiment. Puis ça va être bon pour le restant de ta vie, là, ça, justement. Là. Je pense qu'en affaires puis en finance, il faut en faire des erreurs pour se relever puis en faire plus après. Puis, tu sais, t'en as parlé un peu, mais si je te pose la question clairement, qu'est-ce qui t'a mené à la faillite? Oui, il y a la pandémie, puis oui, il y a le fait que tu surconsommais, tu sais, que tu dépensais quand tu n'avais pas les sous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu penses, qui sont entrées en jeu pour peut-être ceux qui nous écoutent, pour les aider à ne pas faire faillite?
Bien, en fait, comment je le vois, c'est que la faillite, c'est pas un échec en soi, c'est pas... c'est une décision d'affaires, en fait, que j'ai prise.
J'aime ça, ouais. Parce que t'es pas obligée, en fait, on n'est jamais obligée hein, de déclarer faillite, si je me trompe pas.
Non, exactement. Puis moi, j'aurais pu continuer quand même. Mais à ce moment-là, en fait, moi, j'ai parlé avec mon comptable. J'ai dit, OK, admettons que la pandémie finit maintenant. Nous, dans le fond, on avait diminué notre chiffre d'affaires d'à peu près 90 % là, rendu au mois de juin. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait comme plan stratégique pour remonter la pente? Puis il m'a dit, on va remonter la pente, mais ça va prendre peut-être 10 ans.
Oui, boy, OK.
Et là, c'est là où moi, dans ma tête, stratégiquement, j'ai dit non. C'est pas vrai que je vais travailler 80 heures semaine comme je faisais pour des peanuts pour que peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je retrouve la qualité de vie que j'étais en train d'avoir. Fait que c'est là où, tu sais, ma décision de faire faillite, en fait, c'était comme de remettre tout à zéro, de tout repartir à zéro sur des bonnes bases. Il y a des façons de faire des faillites aussi. Comment je pourrais dire? Pas plus stratégique, mais oui, le plus songé. Donc, moi, je le voyais déjà. J'avais ma vision depuis le mois de juin qui se préparait. J'avais un avocat qui était vraiment super, un comptable qui était vraiment super, un syndic de faillite qui était extraordinaire aussi. Fait que ces gens-là m'ont accompagnée. J'ai pas juste dit « OK, tu sais, ça va plus, bye-bye.
» Non, c'est ça. C'était préparé, là.
C'est ça. Fait que, tu sais, nous, on avait un gros inventaire de boutiques. On a fait des ventes. On a tout préparé pour, tu sais, laisser le moins de choses possible. On s'est servi de ces sous-là pour payer une partie du 15 000 $ de la proposition consommateur. On a bien fermé notre local avec le propriétaire. On a vraiment jusqu'à boucher les trous des cartes qu'on avait sur les murs. Fait que quand on est sorti, on est sorti vraiment la tête haute. Nos clients étaient contents. Dans le fond, quand on a décidé de faire faillite au mois d'août, nous, c'était dans l'intention de ne pas faire... Tu sais, on aurait très bien pu faire racheter aux clients au mois de septembre des abonnements dans cette période-là qui était vraiment clé pour l'année. Puis on aurait pu décevoir la majorité de nos clients en leur disant « Bien, désolé, mais votre abonnement n'est plus valide. »
C'est vrai.
Nous, on s'est assuré de le faire dans un moment où les abonnements étaient terminés. Les gens ne pouvaient pas avoir de grandes déceptions. Ils n'avaient pas perdu non plus énormément d'argent. On a eu des gens qui nous ont même fait des dons pour nous aider.
Oh my God!
Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire ça, comme je disais, la tête haute, puis de le faire de façon puissante pour que ça soit juste une meilleure façon de rebondir par après. Puis ça, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai connu des femmes entrepreneurs qui sont extraordinaires. Et quand elles m'ont dit qu'elles avaient fait ça dans leur vie, j'ai comme fait « Ah, ouais, OK. » Puis ces femmes-là m'ont vraiment soutenue, m'ont dit « Catherine, tu sais, demain, ça va déjà être passé, là, dans le sens que ça peut être vraiment un bon move dans certains cas. »
Intéressant! Puis là, depuis la fermeture de ton centre et de ta faillite au mois d'août, ça a pris combien de temps avant que tu te décides à repartir un nouveau projet?
En fait, au début, j'étais vraiment décidée à devenir employée. Ouais, je suis devenue directrice d'une garderie.
C'est vrai.
Bon poste, bon salaire. C'était super plaisant. J'ai vu d'autres avantages aussi. Et rapidement, mon côté entrepreneur est revenu là, au galop. J'avais besoin de créer un projet. Je me suis beaucoup questionnée aussi pendant cette période-là. Et ben c'est ça. Finalement, il y a eu d'autres petits deuils au travers de ça. Le deuil du studio, le deuil d'un bébé. Puis ça nous a beaucoup re-questionnés aussi en tant que couple. Puis a émergé de ça un nouveau projet. Moi, je me suis beaucoup reconnectée aussi à ma spiritualité entre la faillite puis aujourd'hui, entre autres par la peinture, puis la méditation, le yoga, chose que j'avais plus, même plus le temps, en fait, de faire ma pratique quotidienne en tant que propriétaire.
Prof.
Fait que ça m'a beaucoup aidée à voir clair en moi, en qui j'étais, puis à partir un nouveau projet de façon très, très, très consciente, très, très stratégique aussi, où je savais qu'il y aurait juste du bon là, qui sortirait de ça.
Ben, parle-nous-en de ton projet, parce que, évidemment, je le connais, mais c'est complètement différent de ton studio de yoga. Puis moi, ce que je trouve intéressant, puis c'est là qu'on voit vraiment ta force puis ton courage, c'est que là, présentement, ton projet est 100% en ligne, tandis qu'avant, c'était 100% en présentiel, puis... Je suis pas certain qu'il y a autant de personnes comme toi qui auraient été capables de faire le switch technologiquement parlant, puis autant rapidement. Là, tu sais, ça fait pas longtemps que tu as fermé ton centre, puis que tu n'étais pas la fille la plus techno non plus. Là.
Non, vraiment pas. Fait que moi, j'ai comme décidé de me tourner complètement vers le en ligne pour justement m'éviter les déceptions. T'sais, là, déjà, on est presque au mois d'août actuellement, donc ça va faire un an. Puis on entend déjà reparler, même après la vaccination, de peut-être...
Exact! Pas... On ne sait pas pantoute là, ce qui s'en vient à l'automne.
Exact! Fait que je suis vraiment contente que j'ai tourné tout mon projet en ligne. Donc, ça s'appelle le Cercle des femmes intuitives. Et c'est une communauté de femmes qui cherchent à développer leur spiritualité, leur intuition, leur facilité à utiliser les outils mystiques comme le tarot, les pierres. Et en fait, on a un cercle de femmes mensuelles qui se fait en ligne et l'énergie se transmet autant bien en ligne, par Zoom. Mm-hmm. C'est le fun parce que ça se fait de chez vous. Puis dans le fond, moi, je donne des ateliers aussi durant le mois. Des ateliers sur des sujets variés, puis un atelier de style plus coaching, accompagnement pour bien guider les femmes. Fait que pour moi, c'est important de ne pas juste pitcher du contenu, mais vraiment de les soutenir dans tout ça. Puis les femmes, en fait, se livrent et partagent, puis c'est ça qui fait la puissance du cercle, puis qui amène un grand pouvoir guérisseur. Donc, voilà.
Puis c'est super bien écrit. Puis la plupart des femmes, est-ce qu'elles sont déjà spirituelles ou il y a des niveaux différents?
On a vraiment de tous les niveaux. Donc, on a des femmes qui ont déjà développé leur spiritualité de différentes manières. On a des femmes qui sont complètement novices aussi, qui commencent à découvrir ça. On a des femmes de tous les âges aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça va à peu près de 20 à 65 ans là, en ce moment.
C'est fou. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui étaient clientes à ton studio qui t'ont suivi dans ce projet-là?
Oui, il y en a beaucoup qui m'ont suivi, effectivement. De plus en plus de nouvelles personnes aussi, toutes connectées à ces femmes-là qui entre elles tissent la toile et amènent d'autres femmes. Mm-hmm. Mais oui, j'ai des clientes que je peux dire là, gratitude vraiment parce qu'elles sont là depuis le début, puis je pense qu'elles me suivraient dans n'importe quoi.
Tant mieux, tant mieux. Puis tu as appelé ça le cercle des femmes intuitives, puis tu as dit que tu avais un cercle, il y a un cercle par mois en fait. C'est quoi un cercle? Parce que pour plusieurs qui nous écoutent, un cercle, c'est une forme, tu sais. Ouais. C'est quoi un cercle de femmes? Comment ça se passe?
En fait, pourquoi on nomme un cercle? Parce que c'est pour représenter les cérémonies sacrées autour du feu qui se faisaient ancestralement. Donc, des cercles de parole où chaque femme parlait à tour de rôle sans nécessairement que les autres rebondissent sur ce qu'elle dit. Donc, c'est des partages qui sont 100% spontanés, authentiques, faits de façon à simplement déposer des choses qui sont en nous. Donc, que ce soit des choses très, très positives comme des expériences plus difficiles. En fait, c'est qu'on livre qu'est-ce qui est là pour nous dans le moment. Donc, c'est vraiment un partage du cœur. C'est là que c'est très guérisseur, en fait, c'est qu'on travaille notre écoute active, on est là pour se soutenir entre nous. Donc, comment ça se passe le plus concrètement, en fait, c'est qu'on se connecte par Zoom, tout le monde ensemble, à la même heure, et là, on va fermer le cercle. Donc, souvent, les gens se trompent, vont dire « ouvrir le cercle », mais en fait, on ferme le cercle, on se connecte ensemble. Mm. Par souvent une petite méditation, un petit enseignement sacré. Et après ça, c'est vraiment fait de façon intuitive. Donc, certaines femmes vont prendre la parole plusieurs fois, d'autres vont rester complètement silencieuses aussi dans l'écoute. Et c'est ça qui est parfait, c'est qu'on accueille les silences, on accueille qu'est-ce qui est là. Et c'est merveilleux de voir à quel point toutes les femmes sont connectées. Souvent, ils vont tout de suite animer le cercle parce que leur expérience leur fait penser à quelque chose, puis ci, puis ça. Et finalement, ben, on réouvre le cercle à la fin par, encore une fois, un petit rituel pour repartir dans nos vies.
J'adore. J'adore. J'ai des frissons. Je trouve ça tellement nice parce que, honnêtement, c'est toi qui m'as fait apprendre, en fait, c'était quoi un cercle puis comment ça se passait. J'en ai déjà participé à un en passant. J'invite tout le monde à t'écrire aussi s'ils veulent faire partie du cercle parce que les gens peuvent embarquer quand ils veulent présentement, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, en ce moment, vous pouvez aller voir sur mon site internet artisteintuitive.ca. Il y a 3 options de forfait. Fait que vous pouvez vous inscrire mensuellement ou sur 6 mois, 1 an. C'est sûr que plus vous visez une transformation profonde et évolutive de longue durée, bien, plus les femmes restent connectées ensemble longtemps, plus c'est puissant parce qu'elles apprennent à se connaître aussi. Fait que, voilà.
Génial. Puis qu'est-ce que tu trouves plus simple, si on peut dire, d'avoir une business en ligne versus quand tu avais une business en présentiel? C'est quoi les différences que tu remarques?
OK. Ce que je remarque, c'est qu'en ligne, il y a vraiment moins de frais fixes comme un local. Le local, c'est souvent là, une grande partie de nos frais fixes qui tirent beaucoup de jus à l'entreprise. Surtout là, qu'en ce moment, au pied carré, c'est vraiment dispendieux. Fait que ça, je dirais que de ne pas avoir de local fait en sorte aussi qu'au niveau des employés, là, présentement, j'ai pas vraiment de gens, beaucoup qui travaillent avec moi, mais si éventuellement j'en avais, ben, j'ai pas un horaire à respecter comme l'ouverture de 9 à 5, mettons. Fait que ça, encore là, ça diminue les frais. C'est sûr qu'on a tendance à minimiser les frais qui sont reliés aussi à la business en ligne. Il y a beaucoup d'applications, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Ce que je dirais qui est très différent, c'est que oui, ça nous apporte une grande liberté, mais il y a beaucoup de choses que je dirais backstage à penser. Tandis que quand c'est en présentiel, là, t'es sur place, tu parles à ton monde, tu prépares le thé, tu sais, tout se fait de façon très, très, très concrète. Alors qu'en ligne, ben, d'aller connecter avec les gens en ligne, d'être présente sur les médias sociaux, d'offrir du contenu gratuit, c'est toutes des choses autant importantes, mais qui se font comme un peu plus en arrière-scène.
Non, c'est vrai, puis c'est surtout moins naturel au début. Faut y penser, faut que ça soit dans notre organisation. Tant qu'il y a présentiel, préparer ton thé, tu ne l'écrivais pas dans ton calendrier, là, tu le faisais automatiquement, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, puis je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que je trouve difficile, parce que moi aussi, je suis 100% de la maison depuis la pandémie, c'est justement, my God, de ne pas procrastiner, d'être discipliné. Tu sais, là, il n'y a personne qui nous regarde travailler, il n'y a personne qui sait si on se pogne le bien ou non, là, tu comprends? Fait que, pour moi, ça a été de l'adaptation. Je ne sais pas pour toi, c'est sûr qu'il y a plein d'avantages à travailler de la maison, mais c'est quand même différent probablement d'avoir une business en présentiel.
Oui, c'est sûr. Ben oui, ça me demande de la discipline, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai toujours été une fille assez rapide là, quand j'ai un projet. Mm-hmm. Tu sais, je fonce, je m'installe, puis je suis quand même assez concentrée. Pour moi, le plus grand défi, là, je te dirais, c'est vraiment la constance.
100%, t'es pas la seule, je pense. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait partir justement sa business en ligne, qui part de zéro?
Mon Dieu, d'y aller de façon progressive, d'y aller doucement, parce que moi, je trouve que souvent, notre objectif change, notre point de vue change. Quand on y va trop rapide, ce que j'ai fait avec le studio yoga, c'est que finalement, quand on change d'idée, ce qui est normal parce qu'on évolue aussi comme entrepreneur, on évolue dans notre mindset, bien là, après ça, c'est difficile de revenir en arrière. Exemple, en ligne, un site Internet coûte quand même beaucoup de sous à faire. Fait que là, souvent, il y en a qui vont penser, ah, ben là, je commence, ça me prend un logo, ça me prend un site Internet. Tout ça, là, c'est s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit.
Vraiment.
Fait que comment tu peux commencer petit, aller bâtir ta clientèle, aller bâtir ta notoriété, et après ça, progressivement, quand ton entreprise est claire pour toi, ton image de marque aussi devient claire, puis là, c'est le temps d'investir un peu plus dans ce que tu vas présenter.
Je suis d'accord avec toi, puis c'est encore une fois d'attendre d'avoir un peu du cash flow, puis avoir les sous pour se payer, justement, d'aller à une prochaine étape. Puis pour les sites web, tu as complètement raison, là, honnêtement, c'est fou comment les gens se garochent là-dessus, mais si tu commences, tu n'as pas besoin d'un site web, puis il y a tellement de gens qui font des 6, 7 chiffres, puis qui n'ont même pas encore de site web, tu sais, ça veut complètement rien dire. C'est un outil de plus, mais c'est pas essentiel. Même chose qu'un logo, tu sais, surtout si la personne a sa propre image de marque, elle n'a pas besoin tout de suite d'un logo. Là. Si une amie en fait un pas cher, fine, mais payer des milliers de dollars, c'est mieux de mettre ton argent ailleurs là, pour commencer.
Exactement.
Génial! Fait que merci, Kat, d'être passée sur le podcast. On aurait pu parler de plein de choses. Puis pour ceux qui nous écoutent, en passant, Catherine, c'est vraiment elle qui m'a fait tomber en amour justement avec le tarot. J'ai assisté à plusieurs de ses ateliers. Puis je deviens de plus en plus... intuitive, je me connecte plus à mon intuition aussi depuis que je fais partie de ton cercle. Donc, merci, Catherine. Puis, je vais mettre les infos aussi dans la description de l'épisode. Puis, tu as parlé de ton site web, mais si oui, sinon, on peut te trouver sur les médias sociaux.
Alors, sur Instagram, mon nom, c'est Catherine Derubé, tout d'un bout, avec une petite barre en bas à la fin. On peut aussi me trouver sur Facebook en tant que l'artiste intuitive. Puis, c'est ça, sur mon site web également.
Parfait! Merci, Kat, d'être venue!